Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal. Lievin Mbwinga à la présentation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal du soir. À la une de l'actualité, rencontre de tous les enjeux hier à Doha entre les présidents Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda et le roi du Qatar, Tamim bin Ahmad Al Thani. Résultat, un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel a été convenu. Nous en parlons dans ce journal. Toute dernière tendance du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans ce journal, 309 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la RDC, ayant fait 808 victimes au cours du mois de janvier dernier. Le BCNUDH a dévoilé ces chiffres ce mercredi. Détail dans un instant. Notre invité, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de la province de la Tchopo, Roger Ekongo Demba, nous parle d'un projet de création de nouvelles communes en gestation dans la ville de Kisangani, à suivre vers la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Je l'ai dit, les présidents Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda et le roi du Qatar, Tamim bin Ahmad Al Thani, autour d'une table hier à Doha. Les trois personnalités se sont rencontrées pour discuter de la paix dans l'est de la RDC. Résultat, un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel a été convenu avec un engagement commun pour la stabilité régionale. Cependant, chaque parti a présenté des visions différentes pour la suite du processus de paix. L'essentiel de communiquer de trois parties dans ce condensé de Martial Papi Mukeba, rendu par Jacques-Yves Molima.
Les ministères des Affaires étrangères du Qatar, en tant que médiateur, saluent le progrès des processus de Luanda, Nairobi et EAC SADC, réaffirmant l'engagement de parties à un cessez-le-feu immédiat. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les bases d'une paix durable, évoquant une fusion ou un alignement de processus de Luanda et Nairobi pour optimiser les démarches des paix. En tant que hôte, les Qatar soulignent l'importance de poursuivre les discussions entamées à Doha pour consolider les efforts des paix. Dans un communiqué publié mardi, la présidence de la RDC met l'accent sur l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que sur la nécessité de rétablir l'intégrité territoriale du pays. Le président congolais réaffirme son engagement envers le processus de Luanda et Nairobi, appelant à la fin de violence du M23 AFC au nord Kivu et au sud Kivu. De son côté, dans un communiqué, la présidence du Rwanda exprime son soutien aux efforts de processus EAC-SADC tout en insistant sur la nécessité de traiter la question des FDLR. Le président rwandais plaide également pour un dialogue direct avec le M23 AFC qu'il considère comme essentiel pour résoudre les causes profondes du conflit selon lui. La RDC et le Rwanda expriment toutefois leur volonté commune de trouver une solution définitive et pacifique au conflit.
Voilà, vous avez certainement reconnu, c'était un reportage signé Ronly Mbotinera. La rencontre entre les présidents Tshisekedi de la RDC Kagame du Rwanda à Doha au Qatar est évidemment diversement commentée au sein de la population de Bukavu, ville occupée par le M23 soutenue par l'armée rwandaise. Si pour les uns, cette rencontre balise la voie au retour à la paix à l'est de la RDC, d'autres estiment que la répétition des accords secrets risque de pérenniser les conflits entre Kigali et Kinshasa. Gloria Lutula.
La rencontre surprise du mardi 18 mars entre le président Paul Kagame et Félix Tshisekedi à Doha au Qatar se commente partout dans les rues de Bukavu. Ce père de famille, comme plusieurs Bukaviens interrogés, voit dans le tête-à-tête entre les deux chefs d'État la volonté de mettre fin à la guerre qui déchire la partie est de la RDC. Selon eux, il est important que les deux chefs d'État dialoguent pour trouver une solution durable à leurs divergences. L'autre catégorie de personnes interrogées ne partage pas cet optimisme. Pour eux, tant que le Rwanda n'a pas retiré ses troupes du territoire congolais, tout ce qui se raconte n'est que mensonge. Si les deux chefs d'État veulent que nous croyions en leur sincérité, ils doivent publier la décision finale de leur rencontre, insiste cet autre habitant de Bukavu. À côté de lui, cette femme, larmes aux yeux, déclare, je cite, « Notre président devrait éviter des accords secrets avec le Rwanda si vraiment il est soucieux du sang des innocents qui coule impitoyablement depuis des décennies. » Fin de citation. Elle rappelle le désastre humanitaire qui s'écoule l'est du pays et qui, d'après elle, ne va pas s'arrêter par des simples déclarations d'intention. Pour illustrer son pessimisme, la dame cite l'infiltration des troupes rwandaises à Mumosho, dans la province du Sud Kivu, qui est intervenue au lendemain même de la rencontre de Doha entre Tshisekedi et Kagame.
Voilà, s'agissant de Tamim bin Ahmad Al-Thani, il s'agit de l'émir du Qatar et non du roi. J'espère que vous avez bien noté. Sachez aussi que le coordonnateur humanitaire ainsi que la chef du bureau d'OCHA en RDC sont en visite dans le nord et le sud Kivu. Objectif de leur mission, rencontrer les populations touchées par l'escalade de la crise depuis janvier. Leur visite dans les deux provinces est conforme aux principes humanitaires d'impartialité et de neutralité. Bruno Lemarquis et Madame Martinez rencontrent toutes les parties prenantes afin de trouver des solutions pour assurer que l'aide essentielle arrive à toutes les personnes dans le besoin où qu'elle se trouve. Toute dernière tendance du BCNUDH, publiée ce mercredi, 309 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la RDC, ayant fait 808 victimes au cours du mois de janvier dernier. Ce n'est pas tout. Dans son communiqué de presse, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme affirme que, comme les périodes antérieures, les provinces les plus affectées sont le Nord Kivu, avec 60% de violations et atteintes documentées, suivies de l'Ituri et du Sud Kivu. Parmi les provinces non affectées par la guerre, le Haut-Katanga, Kinshasa et le Maïndombe qui ont connu, hélas, le plus grand nombre de violations. Grâce à Mzati pour les détails.
Le BCNUDH a enregistré au moins 12 incidents de violences sexuelles liés au conflit avec 45 victimes adultes. Parmi ces incidents, 10 concernent des viols collectifs dont 2 accompagnés des vols des biens des victimes. Parmi les 5 provinces concernées, la province de l'Ituri a enregistré le plus grand nombre de victimes de violences sexuelles, soit 34 victimes attribuées au CODECO et au Mai Mai de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo UPLC, suivi de la province du Nord Kivu avec 8 victimes attribuées aux membres du M23, au FDLR et au FRDC. Ensuite, la province du Sud Kivu avec 3 victimes attribuées aux Wazalendo du groupe armé Nyatura et au FRDC. Au cours du mois de janvier, le nombre de violations graves affectant des enfants dans le cadre du conflit armé documenté et vérifié a connu une diminution de 6% par rapport au mois de décembre 2024. Selon le BCNUDH, le recrutement ou l'utilisation a été la violation la plus fréquente, suivie de l'enlèvement, le meurtre et la mutilation, la violence sexuelle et les attaques contre les écoles et les hôpitaux. Par ailleurs, le BCNUDH dit continuer le plaidoyer auprès des autorités pour la libération des personnes en détention arbitraire dans les différentes provinces du pays.
Direction Ituri à présent, où des affrontements sont signalés depuis hier mardi entre les militaires ougandais des UPDF et la milice CODECO dans la région de Fataki, à plus de 80 km au nord de la ville de Bunia dans le territoire de Djougou. Des sources sécuritaires locales rapportent qu'il y a des morts ainsi que des blessés des deux côtés sans donner plus de détails. Cette attaque a provoqué un important mouvement des populations dont certains se dirigent vers la base militaire de la MONUSCO de Djaïba et d'autres vers des villages périphériques. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
La situation sécuritaire est tendue depuis mardi dans la région de Fataki après l'arrivée tôt le matin des militaires ougandais dans cette entité en provenance du territoire de Mahagi. À leur arrivée, les miliciens du groupe armé CODECO ont aussitôt exprimé leur colère par des tirs de sommation. Au fil des temps, la tension est montée entre les deux parties. Des sources de sécurité renseignent qu'un élément de la CODECO a été tué. Du côté de l'armée ougandaise, 2 soldats sont blessés ainsi qu'un soldat des FARDC. D'autres sources parlent encore de plusieurs morts de part et d'autre, des informations qui ne confirment pas encore l'administrateur du territoire de Djougou. Selon un rapport de la MONUSCO, le militaire de FARDC blessé a été évacué vers Bunia par les casques bleus pour y être soigné. Les soldats de la paix effectuent des patrouilles et des sécurisations dans la zone pour assurer la protection des populations civiles. Des milliers de civils, en majorité des déplacés, sont regroupés en ce moment autour du camp de la mission onusienne à Djaïba. Contactez le porte-parole de l'armée à Ituri, se réserve de tout commentaire à ces sujets. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Autre actualité, la route nationale numéro 17 qui relie la ville de Bandundu à Kinshasa traversant le territoire de Kouamout au Maïndombe est pour le moment presque abandonnée et peu praticable. La circulation est d'ailleurs rare sur cette voie depuis un long moment et pour cause, cette route d'importance économique très capitale est dans un état de délabrement très avancé dans son tronçon compris entre Mongata et Bandundu, puis elle est sous l'activisme de la milice Mobondo. Pour Judith Suminwa, première ministre de la RDC, des efforts sont en train d'être conjugués par son gouvernement pour rétablir la sécurité dans ce coin et reprendre les travaux de modernisation interrompus à cause de cette insécurité. D'autres détails avec Irène Mboma Luzolo.
Délabrée comme à l'accoutumée, cette route en terre est longue de 250 km, rend la tâche difficile aux voyageurs et aux commerçants opérant sur les tronçons Mongataba-Ndundu. Selon les usagers, des bourbiers, des gros trous de flaques d'eau, des érosions et autres font tourner mille fois les pneus sur les mêmes endroits, surtout pendant la saison pluvieuse. Au-delà de ces calvaires, s'ajoute aussi un problème d'insécurité orchestré par la milice Mobondo qui demeure active depuis près de 3 ans à Kwamout au Maïndombe. Du coup, la RN17 est presque abandonnée et peu fréquentée car les usagers craignent pour leur vie, disent-ils. Rappelons qu'en juillet 2022, les travaux de modernisation de cette route avaient débuté, mais ont été arrêtés à cause de l'insécurité. C'est ce qu'a déclaré la première ministre Judith Suminwa lors de son passage dimanche à Bandundu. Toutefois, elle a rassuré que son gouvernement multiplie des efforts pour le rétablissement de la paix dans la région en vue de la reprise des travaux dans le cadre du programme sino-congolais. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Bonne nouvelle pour les habitants du territoire de Loubefou. Plus de 30 000 habitants de ce coin du Sankourou, précisément de Loubefou, centre et des localités Pembe et Chenga, dans le secteur de Ndjovu, accèdent désormais à l'eau potable. Et cela dure depuis bientôt une semaine. À l'origine, deux forages de puits d'eau creusés grâce au projet initié en partenariat avec l'ASBEL belge Maillon Humanitaire, soutenu par le centre hospitalier régional de Une et Wallonie-Bruxelles. Des explications avec Esther Ndalafina.
Plus de 30 000 habitants de Loubefou Centre et ceux de Chenga accèdent désormais à l'eau potable. Cela grâce au projet soumis par le député national Hippolyte Ndjongabo auprès de l'ASBEL belge Maillon Humanitaire soutenu par le centre hospitalier régional de Haï et Wallonie-Bruxelles. Pauline Lokolé, enseignante à Loubefou, salue ce projet.
La population de Loubefou, surtout les femmes, nous sommes inondés de joie vraiment. Parce qu'auparavant, on avait trop de difficultés pour avoir de l'eau propre. Mais pour l'instant, nous avons de l'eau propre, nous buvons tel que nous voulons.
Louise Onemanjadi se rappelle de son calvaire pour accéder à l'eau brute de la rivière.
Nous avons souffert beaucoup pour les problèmes de forage. Nous avons la joie. On souffrait vraiment. Il y avait peut-être 2 ou 3 km qu'on partait prendre de l'eau.
Chef Koy du groupement d'Empembe remercie les bienfaiteurs. Pour le député national Hippolyte Ndjongambo, initiateur du projet, ce forage lutte contre les maladies hydriques. Signalons que les travaux d'érection de ce forage ont pris près de 3 semaines. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, plus de 300 élèves de l'école primaire Kayengela en situation de détresse en ce moment. Cela se passe au village Elila. À la base, cette école a été victime d'un vent violent qui a emporté sa toiture, perturbant ainsi la scolarité de ses enfants. Le curé de la paroisse Saint-Joseph de Kailo est président du conseil pédagogique paroissial qui alerte, appelle à l'intervention de tous. Abbé Alphonse Kitwanga a été joint au téléphone par Florence Kizalunga.
Cette école a été victime de cet ouragan et qui a emporté sa toiture et même les tôles de cette toiture sont calcinées et irrécupérables. Et quelques fragments ou quelques morceaux que nous avons pu ramasser, nous avons tenté de faire les petits hangars dans le même bâtiment pour permettre aux élèves d'étudier, mais peine perdue parce que ça ne résout aucun problème. Et jusqu'au moment où je vous parle, les enfants sont en danger parce que à partir de 10 heures, le directeur est obligé de les faire rentrer à la maison pour les protéger contre les intempéries. Donc, les enfants sont dans une difficulté terrible. Nous tendons la main à toutes les autorités, tous les services humanitaires, s'ils peuvent venir en aide à ces enfants qui sont en train de souffrir et qui ne savent plus comment étudier dans de bonnes conditions. Vraiment, le plus tôt possible serait mieux. Plus de 300 élèves sont sans abri et qui ont besoin de l'éducation.
Actualité internationale.
Une plainte a été déposée contre le groupe Bolloré et Vincent Bolloré hier mardi 18 mars au soir devant le parquet national financier de Paris. Cette plainte est déposée par le collectif Restitution pour l'Afrique qui se compose de 11 ONG présentes dans 6 pays du continent pour les chefs présumés de recel et de blanchiment d'argent dans le cadre de ses activités logistiques en Afrique et plus particulièrement la gestion des ports.
L'invité.
Un projet de création de nouvelles communes est en gestation dans la ville de Kisangani. Ce dossier a été examiné la semaine dernière au cours du Conseil des ministres. Une fois approuvé et publié par un décret de la première ministre, la ville de Kisangani pourrait passer de 6 à une dizaine de communes. Quelle est la motivation de ce projet et quels en sont les objectifs? Pour en parler, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières et notre invité, le professeur Roger Ekongo Demba, s'entretient ici avec Jacques Moukonkole.
Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Des dossiers examinés la semaine dernière au Conseil des ministres, il en est un relatif à la création de nouvelles communes. D'où vient cette initiative?
Oui, merci beaucoup. Effectivement, nous avons été instruits, notamment son excellent monsieur le vice-gouverneur et moi, pour actionner l'instruction qui a été envoyée par son excellent monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui a instruit son excellent monsieur le gouverneur, pour que nous puissions voir la possibilité de créer des nouvelles communes au niveau de la ville d'Ekisangani.
Et quelle pourrait être la motivation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur?
Alors, de nombreux rapports, ainsi que des différentes informations, que ce soit sur les plans administratifs et sécuritaires. Son excellence, monsieur le VPM, en charge de l'intérieur, et aussi plusieurs missions qu'il a eu à envoyer sur terrain ici, dans la ville d'Ekisangani, il a compris qu'il y avait des gros soucis en ce qui concerne le rapport entre les différentes communes, ainsi que le secteur de Lubuyabera. Et donc, pour essayer de résoudre de manière globale ces conflits, ces problèmes d'administration, il a pris à son excellence monsieur le VPM intérieur de voir comment est-ce que on peut mettre fin à cette entité coutumière qui pratiquement ceinture la ville. Et donc, l'idée était orientée pour que on puisse mener des études techniques en tenant compte notamment de la densité de la circonscription, de la démographie, c'est-à-dire qu'il faudra au moins qu'on ait 20 000 habitants pour que nous puissions faire des propositions à son excellence, de manière à ramener ces propositions au niveau de son excellence madame la première ministre, parce que c'est elle qui est habilitée à sortir les décrets pour créer des nouvelles provinces.
Ces communes qui seront nouvellement créées vont toujours cohabiter avec les anciennes existantes. Donc il y aura toujours des relations de voisinage. Pensez-vous vraiment qu'en créant de nouvelles entités communales, on pourrait résoudre ces problèmes de chevauchement?
Non seulement on résout les problèmes de chevauchement, mais la ville est appelée à s'étendre. Avec les poids démographiques de la ville, les trop-pleins de ceux qui sont dans les différentes communes peuvent se projeter sur les nouvelles communes qui seront créées.
Est-ce que la loi l'autorise?
Tout à fait, la loi l'autorise parce que au terme de la loi, lorsque une agglomération ou une entité présente un certain nombre de garanties en termes de superficie, mais également en termes de nombre d'habitants. Pour les cas de la création des communes, 20 000 habitants suffisent, mais en plus de ces données, il y a des étapes qui vont suivre, notamment la présentation du projet au niveau de l'Assemblée provinciale. Et une fois l'Assemblée provinciale fait des consultations au niveau des communautés locales, on pourra remonter jusqu'à ce qu'on puisse arriver justement à ce projet.
Alors, que faites-vous concrètement pour essayer de matérialiser ce projet?
Très bien. Sous la conduite de son excellence, monsieur le vice-gouverneur, monsieur Didier Loboyo. Il s'agit d'une grande commission. À l'intérieur de cette commission, il y a des services techniques de l'État. À travers les actes de création des anciennes communes, pour que nous puissions identifier les repères en termes des limites. Et à partir de là, nous pourrons maintenant voir, selon les axes, notamment l'axe Bangboka du côté de l'aéroport. Il y a un autre axe qui est ciblé au niveau de l'autre rive du pont Chopo. Il y a l'axe du côté de Mangobo et du côté Segama et Simisimi. Le dernier axe, c'est du côté de la rive gauche et du Sève Congo à partir du poste d'Ossio. Donc, ce sont ces axes-là où, très prochainement, les équipes vont faire le travail de terrain de façon qu'on puisse prélever des données. Et lorsque nous allons venir avec ces données, avec des propositions des limites claires, ça va nous permettre de faire la mise en commun et proposer ainsi un scénario en termes de création de nouvelles
projets. Monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que ce projet risque de susciter un malentendu au sein de la population? Je me rappelle du tollé qu'avait provoqué la nomination des bourgmestres dans la collectivité secteur de Lubuyabera. Qu'en dites-vous?
C'est justement afin de prévenir ces éventuels malentendus que nous avons, dans les travaux préliminaires, nous avons associé les chefs coutumiers, les chefs de groupement, les différents leaders d'opinion au niveau de la communauté Lubuyabera pour qu'ils puissent participer au débat que nous sommes en train de faire. Ça, c'est un. Et puis, des deux, lorsque nous allons faire des descentes sur terrain, nous aurons l'occasion d'informer, de communiquer, de parler avec la population, n'est-ce pas, les bien fondés ou les avantages que la population pourra tirer, n'est-ce pas, de l'érection de leurs entités respectives à des communes.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
Merci bien.
Voilà, c'est la fin de ce journal, mais je vous rappelle quand même que le président Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda et l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, étaient autour d'une table hier à Doha. Les trois personnalités se sont rencontrées pour discuter de la paix dans l'est de la RDC. Résultat, un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel a été convenu avec un engagement commun pour la stabilité régionale. C'est pratiquement la fin de ce journal. Au nom de Pele Kipelamondo, de Mimi Kindou, je vous dis merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. Soirée à toutes et à tous.